France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Bien sûr, vous pourriez siffler, imiter, au déboté et au risque d'irriter les oreilles de vos proches, l'air de la douche. Vous savez, la douche dans Psychose. Pensez au couteau. Bien sûr, vous pourriez chantonner la valse de la Veuve Joyeuse dans L'ombre d'un doute. Bien sûr, vous ne pouvez sans doute pas oublier la musique de La mort aux trousses. Mais encore, les autres films, tous les films d'Alfred Hitchcock, quelles étaient ces musiques, leurs musiques ? Fut-il, parfois, essentiel, souvent. En février 1992, 5 numéros d'Euphonia nous remettaient les notes et les images en mémoire. Voici le premier épisode.
Euphonia, Hitchcock et ses musiques. Première émission avant Hollywood. Avec Jean Douché.
Good evening, Miss White. How are you?
I'm all right, thanks.
I haven't seen you for a long time. Have you come to take Frank for a walk?
Yes.
That's right. Well, I must push along. Good night.
Good night.
Good night, Frank. Well, dear?
I've been waiting here half an hour for you.
Good night, George.
Good night, Frank.
Ce que nous venons d'entendre, c'est non seulement le premier film parlant d'Alfred Hitchcock, Blackmail, Chantage, mais c'est également la première apparition dans le film du parlant, de la parole chez Hitchcock. Il faut dire qu'il y avait deux versions de Blackmail, une première tournée en muet, après on a refait le film non pas en muet mais en sonore et parlant, et au début du film, le film commence en muet. Puis peu à peu arrivent des bruits, du sonore, de la musique et peu à peu la parole. C'est ce début-là qu'on a montré avec déjà des différences dont nous parlerons toute cette semaine. C'est-à-dire quand la musique est là, quand le bruit est là, quand ils sont ensemble ou pas, quand il y a le silence, quand il y a la parole. Il apparaît que dès le début, Hitchcock savait très très bien ce qu'était une bande-son et comment faire. Dans le cas précis de Blackmail, la musique est de Wilfried et Norman Arnold. Et c'est le British Symphony Orchestra qui la joue sous la direction de John Reynard. Et la musique classique aura aussi beaucoup d'importance dans cette première période. J'ai demandé à Jean Douché d'être notre compagnon, en quelque sorte, pour cette émission-là, parce qu'il connaît très très bien Hitchcock. Et on peut dire justement que, contrairement à ce qui fut longtemps une idée reçue, les Hitchcock anglais sont tout autant passionnants que les Hitchcock américains sur le thème et également sur le travail technique, et celui qui nous intéresse ici, musique et images et son.
Oui, absolument. Il y a un Hitchcock anglais radicalement différent du Hitchcock américain par la suite. Les thèmes du sujet, la façon traitée, surtout à mon avis au niveau des personnages et des situations, il y a une invention, quelque chose de spécifique qui en montre l'Angleterre avec ses petites gens, un côté même un peu vulgaire, etc., qui est tout à fait passionnant. Et en même temps, c'est vrai de le dire, et Black Mail pour ça est un film rarissime, je dirais même un film unique dans l'histoire du cinéma, où un cinéaste va montrer, en refaisant le film à 6 mois de distance, et en retournant, en modifiant sa mise en scène en fonction maintenant du son qu'il devait uniquement utiliser au départ, et ensuite en y joignant la parole, plus la musique, que d'emblée, en effet, le son était capital pour Hitchcock.
Elle dit bien que l'écriture cinématographique change dans cette version.
Oui, ça change, ça change complètement. Et Hitchcock, en fait, qui était formé par le cinéma allemand, a repris de l'Allemagne, du cinéma expressionniste allemand, la notion d'atmosphère, la notion d'ambiance. Et le son, chez lui, est réellement un son ambiant et d'ambiance.
C'est bien qu'il y a très souvent deux utilisations différentes, disons, de la musique. Soit la musique qui est un matériau à l'égal des autres matériaux, qui est une musique, disons, qu'on entend, qui est une musique, disons, que le metteur en scène place sur des séquences. Mais très souvent également, la musique en situation, c'est un poste de radio, c'est des gens qui chantent. Les deux sont tout le temps présents dès le début.
C'est exactement. C'est-à-dire qu'il utilise la musique au cinéma selon ces deux aspects. Par exemple, bon, prenons aujourd'hui quelqu'un comme Romer, lui-même un très grand admirateur de Hitchcock, ne l'utilise que sur le réalisme, c'est-à-dire un poste de radio, une source de musique. Bon. Et puis l'autre tendance qui est d'utiliser la musique comme accompagnement dramaturgique et pour justement accentuer la dramaturgie. Hitchcock d'emblée va travailler ces deux modes et va les marier, enjouer et faire quelque chose de neuf à partir de cette double possibilité de la musique au cinéma, chose que les autres ne savent pas encore à l'époque. Lui le sait déjà.
Alors, grâce aux archives de l'INA, nous utilisons dans cette série d'émissions beaucoup, disons, de bandes originales, des sons de bandes originales en anglais. Et j'ai choisi ensuite, pour expliquer un peu ce que nous essayons de démontrer, un extrait de Murder. Il faut dire, il y a une chose qui est curieuse, Murder, qui est un film qui date de 1930, tourné fin 29, il y a deux moments de musique classique dedans. Et c'est anecdotique, mais c'est quand même curieux, car on a souvent rapproché la stylistique de ces metteurs en scène. La même année, il y a un cinéaste débutant, Luis Buñuel, qui tourne L'Âge d'Or. Et on remarquera que Murder, le générique de Murder, comme le générique de L'Âge d'Or, c'est le troisième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven. Et que dans l'intérieur des films, dans le film de Buñuel, L'Âge d'Or, le grand de révélation d'illumination de l'amour et de l'amour déçu, c'est sur Tristan et Iseult, c'est la grande séquence dans le jardin. Et dans le film de Hitchcock, Murder, c'est le moment où le personnage, qui est un écrivain de théâtre qui a été jury dans un tribunal et qui se demande s'il a eu raison de déclarer coupable la personne et qui s'interroge, fait mettre la radio, ce qu'on entend, la radio annonce le programme de Tristan et Iseult, et c'est en se rasant, en écoutant cette musique, qu'il se met à découvrir qu'il s'est peut-être trompé à un monologue intérieur. Donc une situation tout à fait étrange et extraordinaire de superposition des sons. On va écouter cette séquence et au lieu de prendre simplement le monologue intérieur que l'on entend en voix off pendant qu'il se rase et que la musique est dessus, nous avons continué l'extrait quand la musique n'est plus qu'un décor à autre chose, à des coups de téléphone et tout. Et on voit que, donc, dans son deuxième film parlant, pour ainsi dire, en 5 minutes, 5 minutes 30, toutes les données également sont faites. Murder.
So the conference adjourned until tomorrow. The Baring murder trial came to a conclusion today with a verdict of guilty. And sentence of death was passed on Diana Baring. Now that is all the news. But here is an SOS which has just been brought into the studio. We've been asked by the Commissioner of Police to broadcast the following. Will anyone have witnessed an accident between a light sports car and a cyclist at the top of Rutland Hill?
Mr. Bennett, will you ask him to bring around details of the takings
on Sunday night,
the last 3 nights?
In which also the woman rider was seriously injured.
Very good, Sir John.
Kindly communicate at once with New Scotland Yard, telephone Victoria 7000, or with any police station. This is the national program. Our concert tonight is an orchestral one, given by the Radio Symphony Orchestra. They start by playing the overture to Tristan and Isolde by Wagner.
Funny, that SOS coming on top of that other. Save her soul. Save her. If I'd stood out longer, I might have worn them down. Why couldn't they see the girl as I did? The rest of the fellas on the jury. But anyone standing in the dock on a charge like that probably looks different from the same person somewhere else. Amusing the way she stood up to everybody. There's no doubt that's the thing that did her a lot of harm. Yet it was that manner of hers that... very attractive, I thought. I wonder what her feelings are now. Out afterwards. The girl says she didn't drink it. Yet she admits she might have killed Edna Bruce. That's queer. Why admit a big thing like that and yet be so sure that she didn't do a small thing such as drink a drop of brandy? All that treated lightly today. I'm sure I was right when I raised that point, and I feel more certain now. How did we know that someone else didn't drink the brandy? Perhaps there was someone else. That's the whole thing. Whoever drank that brandy.
Mr. Benedict, come up to see you, Sir John.
Your back, Sir John. You've been reading about it all. Plenty of publicity. It's been awkward for you, though, you having met the lady before. Well, she wanted to become a star a year ago, that was. I suppose you can say in a sense that she has. Star in a murder drama.
Benny, please. Look here. Get hold of my understudy. Tell him he'll have to go on again tonight. It's very dark if I get to appear at all. Oh, and, get on the telephone straight away to my lawyer, Mr. Rice Sr. Oh, I can give it to you, Temple Bar 5993. Yes. I want you as well to get hold of as many as you can. The members of that company, you know, the touring company concerned with the murder. In particular, the funny little man, the stage manager. I forget his name. I'll see him at the office in the morning.
Temple Bar 5993. But I thought the trial was over, Sir John.
No, my dear Bennett, the trial is not over. By a hell of a long way.
Well, is it a stunt then, Sir John?
Stunt. Isn't a live man's. They're engaged, sir. Oh, very well, I'll try myself later. Don't wait. Diana Baring. Why did I send her away? Told her to be good for her, to gain experience in the provinces. Good for her. And now she's come back.
Bon, alors là, quelques rappels techniques. L'acteur qui joue ça, c'est Herbert Marshall. Et Hitchcock s'inspire de type de metteur en scène, auteur, acteur de l'époque, qu'un enfant Sacha Guitry qui peut être Coward, Noël Coward. Donc c'est déjà un acteur, metteur en scène, qui fait ce personnage qui va parler, se parler à lui-même et tout, et après avoir un dialogue. Et techniquement, il y avait un orchestre dans le studio, derrière une toile peinte, sur laquelle, devant laquelle étaient des accessoires de rasage, et pendant que Herbert Marshall se rasait et parlait, il y avait, disons, l'orchestre qui jouait en même temps. Tout ça a été fait ensemble, et avec les effets de distance qui ont été faits dans différents lieux de studio où c'est donné. C'est-à-dire que dès le départ, c'était le péril complet, mais également avoir dans la voix l'effet, disons, du moment en direct, comme au théâtre. Et ça, je crois que c'est assez important dans la séquence, Jean Douché.
Oui, non, mais là encore, c'est vraiment une séquence d'ambiance tout à fait extraordinaire. Enfin, avec, premier point, l'utilisation, en effet, de Tristan Iseult de Wagner, dont on sait que Wagner étant le premier des grands, je dirais, des cinéastes, des grands musiciens à suspense. Et il est tout à fait étonnant quand on écoute ce morceau dans un film d'Hitchcock, de se rendre compte qu'il y a vraiment des moments qui ressemblent à des moments de Vertigo ou à des moments d'autres films d'Hitchcock, enfin de musique de Bernard Herrmann. Bon, ça c'est un détail. En revanche, ici la musique est mise volontairement, puisque le dispositif même du décor, enfin dans le décor étant explicite, volontairement pour donner toute sa dramatisation à la scène, donc la force dramatique, d'autant plus que justement cela est renchéri par le fait que nous avons affaire à un acteur qui est en train de dire un texte et qui prend une dimension théâtrale. C'est-à-dire qu'il y a une théâtralisation de ce qui est, comme toujours chez Hitchcock, la chose la plus bête au monde, c'est-à-dire quelqu'un qui se rase, et d'un seul coup quelqu'un qui se rase devient un spectacle, et un spectacle où le sort du monde, dont le sort du monde dépend. Et ça, c'est Hitchcock.
Justement, chez Hitchcock, on peut dire que le son, et par exemple la musique, théâtralise l'anodin ou l'apparence anecdotique, sauf quand la musique est dans la salle de spectacle, et la relativise, ou fait le contrepoint et tout. Mais jamais la musique n'est là, j'allais dire, gratuitement ou en redondance.
Ah non. C'est-à-dire que, non, mais quand elle est à la salle de spectacle, à ce moment, elle devient documentaire. On en vient toujours au même point. Ou elle est réaliste, ou elle est d'accompagnement, ou elle est cinématographique, dans le sens...
Ou elle est détournée.
Ou elle est détournée. Mais de toute façon, elle est un élément fondamental de la composition même d'un suspense hitchcockien. Fondamental.
Alors, il faut rappeler aussi qu'après ce film, Hitchcock, le théâtre, c'est important, il a tourné plusieurs pièces de théâtre en film. Il a même fait, on avait prévu mettre un extrait, mais ça n'avait pas grand intérêt, parce que la musique, bien sûr, n'est pas négligeable de Strauss. Mais il a filmé Valse de Vienne, qu'il considère être comme son film le pire qu'il ait réalisé. Moi, j'ai vu le film, je trouve pas pire qu'un autre, loin de là, il est pas mal. Simplement, il est vrai, et ça explique peut-être son rapport à la musique. Alors, pendant le tournage, il s'arrêtait de tourner, il a dit à l'équipe, il dit « Je hais ce genre de musique, je hais ce genre de film, je n'en ferai plus jamais. » Bon, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de musique viennoise chez lui. Si, une fois, on verra plus tard quand on y arrivera dans L'ombre d'un doute, mais pour des raisons tout à fait différentes, et c'est pas Strauss, c'est Léard. Mais bon, la musique de film est importante et elle est le suspense. Comme vous l'avez dit, elle préfigure le suspense, mais on n'en est pas encore. Le suspense. Le suspense va éclater avec un film où la musique dans le film est assez secondaire, sauf dans une séquence où elle prime surtout. Et je crois qu'avant d'écouter la séquence et que vous la commentiez quelque peu après Jean Douché, il faut que je résume un peu ce qu'on verra dans les images, parce que en entendant ça comme ça, ça paraît pas évident. C'est la première version de L'homme qui en savait trop. Il y a deux versions, nous écouterons dans une émission suivante la même séquence, mais dans la version américaine. Et on remarquera d'ailleurs que la version américaine, la séquence fait le double de temps que dans la version que nous allons écouter maintenant. Donc, l'histoire est à peu près connue, mais rappelons-la, un enfant a été enlevé, le couple, les parents de cet enfant devinent plus ou moins quelque chose se trame, ils se séparent, la femme va à l'Albert Hall où il y a un concert où doit aller l'un des espions qui ont enlevé cet enfant, et pendant qu'on entend la cantate d'Arthur Benjamin, elle regarde dans la salle, on voit les gens, il y a un suspense, beaucoup de plans des gens, c'est très très découpé, et peu à peu, la musique continue, et on découvre que quelqu'un est caché dans une des loges avec un revolver, et va tirer sur quelqu'un. Bon, Hitchcock ne fait qu'un seul plan à l'extérieur de ce lieu pour montrer les espions en train d'écouter le concert, une seule fois, très court, on entendra ça, et le coup de feu est tiré, mais il y a le cri avant le coup de feu qui détourne le coup de feu. Bon, il est évident que c'est une séquence de suspense pure, où la musique continue d'elle-même, inébranlable, vraiment. C'est le contrepoint total, curieusement, avec le lyrisme que cela a, et que l'effet du suspense n'a lieu que par les images, j'allais dire, muettes. Seulement, très curieusement, cette musique devient dans notre esprit, après la vision du film, un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser cette musique sans avoir peur du coup de feu qui va avoir lieu. On les verra plus tard, le suspense, quand on passera à une autre séquence. Mais là, je crois que c'est une démonstration complète, absolue. Bien sûr, on ne verra pas les images en radio, pour ça que j'ai voulu raconter d'avant, mais on remarquera que la manière, le choix de cette musique va dans le sens de la démonstration d'Hitchcock que ces images voulaient montrer. Donc, première version, L'homme qui en savait trop, musique Arthur Benjamin, dirigée par Louis Levy.
Thank you. It went off all right.
I hope so for all our sakes.
Voilà. Séquence hyper célèbre dans les années 30.
Et qui redeviendra hyper célèbre dans les années 70.
50. Et en effet, 70, quand le film est ressorti pour, après des années de...
C'est-à-dire que là, ça y est, Hitchcock maintenant, la musique, c'est partie intégrante du cinéma hitchcockien. Et la musique, comme le reste, doit passer au bout hitchcockien. Bon. Donc, on fait un suspense à partir de la musique... Avec la musique, sur la musique, par la musique, bref.
Et dans le lieu où il y a la musique.
Et dans le lieu où, évidemment, où réside la musique, c'est-à-dire au hall de Albert Hall. Je le prononce mal, qui est en plus tout à fait passionnant parce qu'il y a toute une interprétation de ce monde clos, sphérique, qui est ce théâtre. Enfin, cette salle de concert, qui en même temps est très symbolique dans le sens hitchcockien. Bon, alors moi j'ai toute une interprétation là-dessus, mais je ne vais pas la donner ici. Mais ce qui m'intéresse, en revanche, dans l'utilisation de la musique, c'est, d'une part, obliger le spectateur à écouter de la musique pour de mauvaises raisons, qui sont les bonnes raisons hitchcockiennes, c'est-à-dire justement la raison quand est-ce que ça va arriver ce crime, et voir peu à peu les choses se déplacer dans le même temps que se déplace la musique. Et donc, obligé de suivre littéralement la musique sur l'écran.
Avec le côté répétitif de la musique.
Alors, ce qui est tout à fait indispensable de toute façon au suspense, indispensable à la musique à suspense. Si on n'est plus, c'est plus le récitatif, mais bien le répétitif qui l'emporte. Et dans ce sens-là, le spectateur, auditeur par la même occasion, est à tous les sens aiguisé au maximum et prêt évidemment à succomber à l'émotion dramatique qui va lui donner à la fois et son plus grand plaisir et sa plus grande peur.
Alors ce qui est étonnant, c'est que Hitchcock parlait très peu d'opéra, mais on sait que dans l'opéra, le cri de la cantatrice est à la fois cri de jouissance ou cri de mort. Hein. C'est la grande théorie de tout l'opéra vériste, bon, on le sait. Et alors ici, ce qui est étonnant, c'est que le cri n'est donc pas une part intégrante de la musique, c'est la femme qui crie en voyant le revolver qui va tuer, un cri d'orgasme, un cri de vie, un cri qui peut tuer son enfant et qui peut le sauver en même temps. Ça sera beaucoup plus encore élaboré dans la version qui refera des années plus tard. Et si bien que le cri de délivrance, le suspense s'arrête par ce cri, est en même temps un cri, disons, d'emprisonnement encore plus, parce que ce cri fait que l'enfant risque de ne jamais être sauvé. Donc le double jeu... de « je te fais souffrir et je te libère ».« Je te fais souffrir, je te fais libérer ». Et la musique étant utilisée complètement avec ça, parce qu'il est vrai que dans ce cloaque dont vous ne vouliez pas parler, comme un ventre de mer enfermé là-dedans, la seule solution pour s'en sortir, c'est soit hurler, soit mourir.
Alors là, c'est revenir un peu à l'interprétation.
Et la musique va vers ça.
Oui, c'est l'interprétation que j'ai fait de cette séquence dans les deux films, et encore plus nettement dans le second, dans la reprise. C'est-à-dire, pour moi, cette séquence, c'est le sommet de ce qu'est le suspense chez Hitchcock, en tant que tout suspense chez Hitchcock signifie la notion de naissance, et là nous sommes dans la symbolique même de l'accouchement, c'est-à-dire double à la fois dedans, c'est-à-dire ce que peut ressentir une femme au moment de l'accouchement, à la fois avec les peurs, les frayeurs, les douleurs et la libération. Et la musique de ce point de vue, enfin le cœur est tout à fait net de ce point de vue. C'est vraiment une musique à la fois de spasme et libératoire.
Sauf que nous l'entendons comme l'enfant à l'intérieur l'entend.
Exactement. Et ensuite, il y a aussi l'autre. Maintenant, si on est de l'intérieur, il y a cette sensation-là. Et si on est plutôt de l'extérieur, à la fois, c'est le cri est à la fois cri de délivrance, mais aussi cri de terreur et cri de mort. Cette ambiguïté profonde de la notion de naissance. C'est une séquence majeure dans l'œuvre d'Hitchcock. Et si quiconque veut travailler le suspense est obligé d'intégrer cette séquence-là, l'une des deux versions, ou même les deux versions de ses préférences, dans la compréhension générale du suspense hitchcockien.
On sait que dans le thème d'Hitchcock, le secret et l'enfance sont mêlés, on y reviendra plus tard. Et ce qui est curieux, c'est qu'à partir de ce film, très souvent, le problème du secret est lié à un lieu où la musique a lieu, où la musique indique. On va écouter là un extrait des 39 marches, peut-être le plus célèbre film d'Hitchcock de cette période. Et c'est le moment où Robert Donat entend la musique qui annonce Mr. Memory, se dit cette musique que j'ai dans la tête, c'était ça, c'était Mr. Memory, comprend Mr. Memory possède le secret des 39 marches, pose la question que l'autre, en bon professionnel, va répondre immédiatement, lui tire dessus de la même manière qu'on veut tirer sur le diplomate dans la séquence qu'on a entendue auparavant de l'homme qui en savait trop. Et à partir de là, au moment où il va quand même livrer ce secret qu'il sait, il faudra qu'il y ait de la musique derrière. Alors c'est plus du classique, mais de variété, mais le travail sonore est exactement le même. Les 39 marches, 1936.
Before anyone could find out. That's why he is here tonight. To take memory out of the country after the show.
But surely some gentlemen here would like to speak to you.
Question, please. Question, please.
Mr. Bowdre.
Mrs. Florence Nightingale died.
What is the height of the embarrassing?
You, Richard Hannay. Listen, there's something you ought to know.
Hello. Hannay, come along quietly.
Yes, but look here, that man on the stage.
Now, look here, old man. You don't want to cause any trouble and spoil people's entertainment.
General Gordon's death.
Where's the capital of...
What are the 39 steps? Come on, answer up! What are the 39 steps?
The 39 steps is an organization of spies, collecting information on behalf of the Foreign Office of...
Take it easy.
All right.
Get the girls on straight away.
The girls in the doctor right away.
Mr. Memory, what was the secret formula you were taking out of the country?
Will it be all right me telling you, sir? It was a big job to learn it. The biggest job I ever tackled. And I don't want to throw it all away, sir.
It'll be quite all right.
The first feature of the new engine is its greatly increased ratio of compression, represented by R minus 1 over R to the power of gamma, where R represents the ratio of compression, and gamma, seen in end elevation, the axis of the two lines of cylinder, angle of 65 degrees. Dimensions of cylinders as follows. This device renders the engine completely silent. Am I right, sir?
Quite right, old chap.
Thank you, sir. Thank you. I'm glad it's off my mind. At last.
Oui, ce qui m'intéresse dans cette séquence, c'est, puisqu'on vient de voir la séquence précédente qui était, mettons, la grande musique classique, bien que ce soit pas tout à fait exact, ici, c'est l'autre aspect de Hitchcock en Angleterre, c'est-à-dire la volonté de montrer son peuple avec ses goûts, sa vulgarité, sa trivialité même. Et la représentation qu'il fait du musical anglais est, je crois, d'une exactitude et d'un réalisme parfait. Et la musique va tout à fait dans ce sens-là. C'est la musique à la fois facile, du cockney, de tout ce que l'on veut. À la fin, avec les petites femmes faciles, qui lèvent la jambe en même temps, bref.
Pendant que Memory dit ce qu'il a à dire, ce qui sous-entend que peut-être il trahissait pour ces petites filles-là.
Oui, il y a de fortes chances. C'est-à-dire que là, c'est une utilisation, toujours, avec une intelligence, une subtilité, à la fois, bon, j'insiste beaucoup là-dessus, sur Hitchcock en tant que réaliste et finalement documentaire, ce qui lui permet d'aller très loin dans la fiction et dans l'imaginaire, mais toujours avec des bases réelles.
Avec un côté ethnologue, tenant compte des musiques et des gens qui écoutent cette musique.
Et là, on a le musical 1935 anglais, et c'est tout à fait remarquable.
Alors, à partir de ce film, il collabore beaucoup avec Louis Lévy. On connaît peu Louis Lévy, donc je vais quand même profiter, parce que notre invité de demain, Alain Schitz, m'a remis une petite note, car c'est un chercheur. Et Louis Lévy est né en 1893, on ne sait pas quand il est mort, c'était pas marqué. Il s'est intéressé au cinéma dès 1910, il a accompagné les films muets, il a d'ailleurs fait l'accompagnement de Nanook, de Flaherty. Et puis, dès 1929, il entre chez Michael Balcon, qui était peut-être le plus grand producteur anglais de l'époque. Il travaille donc sur des directions d'orchestre, des choses comme ça, d'orchestration. Et bref, il a travaillé aussi avec Vidor. Pendant des années, il faisait plus rien, puis on l'a retrouvé comme compositeur en 1957 avec La femme en robe de chambre, Woman on Dressing Grown de Thompson. Et avec Hitchcock, il y a eu deux parts de collaboration, la partie pendant qu'Hitchcock est en Angleterre, et quand Hitchcock est revenu en Angleterre après la corde tournée Under Capricorn, ils ont retravaillé ensemble et leur fait la musique. Et ce qui est intéressant chez Louis Lévy, c'est qu'il était capable de travailler sur toutes les musiques. On s'en rend compte, c'est bien classique, réorchestré, L'homme qui en savait trop, le truc de Benjamin, toujours. Et là, on va écouter peut-être ce que j'estimerais être le manifeste du son et de la musique chez Hitchcock. Dans cette période, c'est un extrait de Sabotage. Sabotage est un film tiré d'un roman de Joseph Conrad. Et je vais donc raconter très brièvement ce qui se passe. On va l'écouter et après vous le commenterez, Jean Douché. Verloc, qui est un espion, a confié un film, il s'occupe de cinéma également, à son jeune beau-frère, qui est un gamin de 12 ans, qui doit aller porter le film dans un endroit loin du cinéma où il habite. Et il a caché une bombe dans cette bobine de film. L'enfant ne le sait pas. Et l'enfant doit la poser à une heure précise parce que ça va exploser à une heure précise. Mais il ne sait pas qu'il y a la bombe dedans, donc simplement il part. Et tout le long de son chemin, il va être, disons, arrêté. Il va y avoir d'abord, la première séquence qu'on entend, un démonstrateur de dentifrice qui va le faire arrêter, va le prendre comme cobaye. Il va tomber également, disons, sur une manifestation de gens qui regardent passer la reine, les rois et tout ça. Et à chaque fois, il va retarder. Et Hitchcock en profite pour mettre, disons, les accents de l'époque, des musiques qui sont donc en situation, qu'on entend de la rue, et une autre musique dramatique, celle-là, très différente, qui vient en contrepoint annoncer l'arrivée. Encore une fois, le suspense est là, et le suspense, on attend la délivrance, même si c'est la mort de cet enfant. C'est un élément les plus sadiques du cinéma d'Hitchcock, les plus merveilleux. C'est assez long, on va l'écouter, et après vous commenterez Sabotage.
Gentlemen, I want to ask you a question. What did it cause his teeth to fall out?
Why, it comes in the jaw.
The process of decay, inevitable in all human organisms. But decay can be arrested, instantaneously arrested. And by what?
The copper.
Yes, exactly. But if I may say so, by rather more than one copper, by a few coppers.
I have here in my hand a tube of that remarkable preparation, Salvodont, derived from two Greek words, salvo no more and dont toothache. Sixpence the small tube and a shilling for the large tube containing four times as much. Now, let me give you just a little demonstration. Now, if somebody... Ah, I see here the young gentleman who I'm sure will be happy to assist me.
No, I wouldn't.
Oh, yes, yes, you would. Come on, bung him up.
Oh, all right.
In the chair, sir, if you don't mind.
But
allow me to relieve you of the toffee,
It isn't toffee, that's...
Oh, all right. Stay where you are. Don't get excited. Now, then, here we are. The first thing to do is to take the tube in the left hand and remove the cap, like so. Then we pick up the toothbrush and we squeeze some of the solvodon along the bristle, like so. Then, I want you to observe, ladies and gentlemen, that the young gentleman's teeth are very dirty.
They're not.
Yes, they are. Now, come along, open your mouth. That's a good boy. Now, we now proceed to use the brush. Now, with the ordinary commercial dentifrices, what happens? It is either too gritty and takes all the enamel off, or it ain't, and it don't take nothing off. But with Salvodon, that's the happy medium. Neither too strong nor too weak. It performs the functions that nature forgot. It cleanses the teeth, refreshes the mouth, and removes all traces of halitosis.
Ali what?
Bad breath to you, sir.
Same to you.
Thank you, I don't need it.
Come on.
You are now. Relax, honey. Don't be afraid.
There you are.
Better now. Now, ladies and gentlemen, you will observe that I have unfortunately disarranged the young gentleman's hair. But that is easily attended to. Now, I have here a bottle of Losswell, a shilling for that size. But I have large size, four times the size, which is only 18 feet. I will now give you a demonstration about you. You put it on the air like that, you see? It's a remarkable stuff. It is guaranteed to give the appearance of patent leather to the human fetch. You are now groomed for stardom, as they say. Go on, buzz off your little basket. Go on.
Hey, where are you going? Go on, back to your place. Go on.
Go on, son. Get right back.
Here they come.
Yes, 1:30 in the morning. You want to meet a young lady there? Here, you can't bring those there in a public vehicle. They're films, ain't they?
Yes.
Then they're flammable. Go on, off, off, big boy.
But I've got to get to Piccadilly. Can't I leave them out here on the platform or somewhere?
Oh, it's Bartholomew the Strangler. Oh, well, is it you, Bartholomew, old fellow? You can stay. As long as you promise not to sit about me or any of the passengers.
Thank you.
Ouf, Jean Doucet. Alors, suspense.
Bon, ben, là, on a du parfait Hitchcock utilisant maintenant et maîtrisant absolument toutes les pistes sonores. Mais d'abord, la parole en tant que telle est elle-même réduite à du son, c'est-à-dire le très long passage du début avec le... comment ça s'appelle le...
Camelot.
Le Camelot, c'est ça. Le Camelot, où Hitchcock a compris ce qu'il pouvait obtenir d'un son de voix en tant que ce son de voix est récitatif et répétitif. Je crois que son sommet dans ce sens-là, ce sera le jugement du tribunal, du juge dans Vertigo.
Oui.
Ou alors c'est vraiment archi, oui. La spirale sonore qui se... Absolument. Ici, il l'introduit, étant entendu donc que toute cette partie du début, le son devient à la fois un élément de fascination pour l'enfant, et qu'il le retarde dans sa course, attirant son attention justement sur d'autres choses, bon, comme un enfant peut le faire une fois qu'il est dans la rue tout seul.
Oui. Et dans cette séquence, juste derrière, on entend très répétitif une espèce de musique de cornemuse, plus ou moins mécanique, mais qui justement crée une espèce d'hypnose sonore en même temps sur le spectateur.
Absolument.
Et d'agacement déjà qui commence.
Et alors ensuite, nous allons avoir le défilé de la reine.
Entrecoupé de la musique dramatique.
Entrecoupé, c'est ça, je m'excuse. Il y a d'abord le moment de la musique dramatique, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, on montre l'horloge, et là, rappel au spectateur, attention.
Il y a une bombe dans le film.
Il y a une bombe, n'oubliez pas que vous avez la bombe, sinon vous allez oser faire comme l'enfant, et vous allez l'oublier. Bon, donc, on est là pour ça, et on est là pour avoir peur. Bon, petite notation en passant, rappelons que quand même Hitchcock a, par la suite, complètement condamné cette séquence, justement parce qu'il faisait tuer un enfant avec une bombe, ce qui pour lui était quand même...
Sa fille était née entre-temps, faut dire.
D'une part, d'autre part, c'était une mauvaise solution à ce problème de suspense. Voilà.
Alors ensuite, il y a donc le défilé.
Et après, il y a donc le défilé. Et le défilé, à ce moment-là, qui est normal, puisque qui introduit une succession de marches.
Sur un rythme binaire,
répétitif, avec les accents, ce qui est tout à fait logique, cornemuse, etc., les accents plutôt des aigus, des instruments avant.
C'est en même temps toute l'Angleterre, vu que la bombe est destinée aux Anglais contre les Anglais. Oui. Il y a aussi un sens scénarique à ça.
Oui, bien sûr. Et d'une part. Et d'autre part, bon, en plus, c'est un véritable attentat terroriste. On voit bien que Hitchcock se souvient des attentats terroristes irlandais d'avant ceux d'aujourd'hui, donc de la première période irlandaise. Et ensuite, une fois passé ce défilé, monter dans l'autobus, et dans l'autobus, maintenant, retrouvailles des sons ordinaires, c'est-à-dire des sons documentaires, qui, évidemment, surchargés par tout ce qui a précédé, maintenant prennent une dimension
musicale
de plus en plus forte.
Irritante,
puisque maintenant, nous allons aller vers la bombe, et la bombe éclate.
Sur une musique, alors là, extrêmement... Je dirais pas lourde, mais extrêmement dramatique.
Expressive, en tout
cas. Je dirais dramaturgiquement dramatique. Volontairement.
On peut dire à ce moment-là aussi expressionniste.
Ce que je n'ai pas dit avant et qui est important, c'est qu'on entend une espèce de drôle de bruit dans cette musique. C'est un petit chien avec lequel l'enfant joue à côté de la bombe qui vient en plus là-dessus. Et quand la bombe explose, nous sommes délivrés. On est des assassins, mais on est délivrés.
Bah oui, mais ça, c'est Hitchcock.
Et alors, c'est terrible parce que là, la musique est faite sur le répétitif. Il n'y a pas de dérèglement. Alors, juste comme ça pour se rincer la bouche, j'allais dire, il lui est arrivé parfois de jouer le dérèglement de la musique en public, et ça devient une révélation. Et j'ai choisi un très court extrait de Young and Innocent, qui est un film charmant et très très beau de Hitchcock, où un assassin est caché derrière un musicien maquillé en noir, et il est batteur.
Il ne faut pas oublier, c'est quand même...
C'est un très grand Hitchcock, je suis d'accord.
Mais surtout que ce moment-là est aussi un des moments...
De mise en scène.
De mise en scène visuelle, tout à fait étonnant, puisque c'est un travelling qui traverse toute une salle de spectacle.
Oui, mais c'est la séquence qui suit que j'ai pris.
Elle
est coupée en deux. Alors, on a d'abord la séquence qui voit que nous savons que le coupable, c'est ce faux noir qui cligne d'un œil, qui est un plan... Et il est à la batterie. Et tout le cinéma d'Hitchcock, y compris, disons, l'utilisation de la musique, est fait sur une binaire, sur de la cadence, de la rythmique. Et bien sûr, à ce moment-là, l'autre a peur d'être découvert, au lieu de se cacher derrière ce musicien anonyme maquillé en noir, et il va se mettre à dérégler sa batterie et à mal jouer, et donc attirer l'attention sur lui. Et c'est une séquence qui est étonnante, parce que finalement, je crois qu'elle annonce le free jazz.
Ask him to come out, will you?
Thank you.
Alors, pour les officiados du jazz, je peux dire que ça peut aussi faire penser à Spike Jones. Alors là, on n'est plus dans le rythme binaire, on est dans un rythme sur chiffre 3. Et bon, pas tellement de commentaires. C'est une idée comme ça où la musique peut servir la dramaturgie complètement. Seulement, en fait, quand on revoit toute cette période anglaise, on se rend compte que l'utilisation de la musique chez Hitchcock n'est jamais anecdotique. Il faut rappeler qu'au début du parlant, la musique intervenait très souvent en tant qu'élément extérieur au cinéma. Je veux dire par là que c'était des comédies musicales qui étaient tournées, des choses avec des chanteurs, des spectacles qui étaient tournés. Comme il y a eu le théâtre, il y a eu aussi le théâtre musical, et que la musique n'était pas forcément prise au départ comme une possibilité d'un matériau. Et Hitchcock l'a fait. Bon, ça, il faut le dire. Et si on doit faire une conclusion, Douché, laquelle vous feriez sur cette période ?
Moi, j'apparais sur le binaire et le ternaire. C'est-à-dire que, curieusement, en effet, c'est tout à fait exact. Dans la période anglaise, et dans ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est plutôt le côté binaire qui l'emporte. Et vous avez signalé que le rejet d'Hitchcock pour le ternaire, et en particulier pour Vienne, mais peu à peu, sa musique va aller vers le ternaire.
Il va y arriver, oui.
Pour une raison fort simple, c'est que s'il y a un cinéaste qui utilise le binaire, et en particulier la musique binaire, c'est Fritz Lang. Fritz Lang, c'est 1, 2, 1, 2, on y va.
Bon. Y compris dans la mise en scène, d'ailleurs.
C'est-à-dire que c'est binaire, totalement, à tout niveau. Alors que chez Hitchcock, la mise en scène même est ternaire. Et sa musique va aller vers le ternaire. Et il est intéressant de voir que, là encore, il utilise la musique binaire dans le sens où il faut aller droit au but, droit vers le suspense, droit vers le secret, etc. Peu à peu, il va prendre son temps, même dans ce domaine, et que la musique va prendre son temps dans ce domaine et va pouvoir justement disposer, dilater tout le temps. Et c'est ce qui va faire qu'il y aura un changement de musique, en effet, entre le Hitchcock anglais et le Hitchcock américain.
Surtout que quand il fait le Hitchcock anglais, il joue sur ce côté binaire parce que pour lui, l'image est le troisième élément de la musique générale du cinéma. Et peu à peu, il va découvrir que ça peut être, disons, une osmose. Et ça, il ne l'a pas découvert tout de suite. Peut-être aussi par sa méfiance de la musique.
C'est déjà tellement énorme ce qu'il a découvert. Quand on écoute Hitchcock et qu'on fait attention justement à Hitchcock's ingénieur du son, ou en tout cas cinéaste du son, on s'aperçoit que c'était un très très grand inventeur. Mais vraiment, autant et peut-être même plus finalement que dans l'image.
Oui, parce qu'à une époque, il était bon ton de dire, comme Truffaut, que, et c'était vrai, que si on enlevait le son des films d'Hitchcock, tout le monde comprenait l'histoire. C'est vrai. Il venait du muet, il avait cette force-là, il avait commencé même par dessiner des cartons de muet et tout. Mais en même temps, à partir du moment où le son a pris la place beaucoup plus importante que dans cette période-là encore, il est évident que la mise en scène, même l'expression, a été d'évolution et de découverte en découverte. Y compris, nous le verrons, avec des musiciens pas très intéressants qu'il arrivait à appliquer dans son
absolument.
Système.
Absolument. Et il ne faut pas oublier que cette attention au son chez Hitchcock a vraiment démarré à partir de 1982, lorsqu'est ressorti Fait sur cour. D'un seul coup, on s'est dit, mais quel génie du son ! Et on s'est aperçu que tout Hitchcock avait ce génie du son.
On s'est aperçu également que, bien que Ben Herman soit certainement un génie, il avait travaillé avec des musiciens auparavant d'une manière aussi géniale.
Et que surtout, il savait ce qu'il voulait.
Et toujours la musique jouant dans la scène avec la scène de spectacle, toujours. Révélateur. Toujours. Comme s'il y avait un secret du spectacle, un secret de la musique, et que le secret peut-être du cinéma, c'était comment le cinéma pouvait devenir un art aussi à la fois abstrait et sensible. Que la
sensuel,
musique.
Oui, sensoriel plutôt même.
Alors, il boucle la boucle de manière intéressante, pour conclure, pour le plaisir. Quand il tourne son avant-dernier film anglais, avant le beurre de la Jamaïque, il le tourne, il fait La femme disparaît, Lady Vanishes, et dans lequel, justement, le secret d'État, le secret important, c'est par des notes de musique qu'il existe. Il est transposé en notes de musique. Et on va entendre le final pour conclure. Et ce qui est amusant, parce que tout le long du film, le héros Michael Redgrave essaie de se rappeler la musique que chantait la vieille dame, Madame Fry, parce que ça, il se comprend que c'est là-dedans qu'il y a le secret. Il essaie de s'en souvenir. Et quand il arrive au office pour le donner, il a oublié la musique. Il a oublié, disons, donc il peut pas donner le secret. Et alors là, c'est le grand humour, c'est qu'à ce moment-là, la femme n'est pas morte et il entend la musique comme révélateur. Qu'il y a une manière de boucler le boucle d'une pirouette, et Hitchcock adorait les pirouettes. La fin, le niveau des cheese.
Are you going anywhere?
Foreign office.
Where are we going for our honeymoon?
I don't know, somewhere quiet. Somewhere where there are no trains.
Mr. Campbell, we'll see you now.
Wait a minute. It's gone.
What's gone?
Oh, the tune, I've forgotten.
No, oh no.
Oh, wait a minute, let me concentrate.
Dun, 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 dun.
No, 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 that's the wedding march.
This is awful. I've done nothing else but sing it since the day before yesterday, and now I've forgotten it completely.
Euphonia, Hitchcock et ses musiques, 5 émissions de Noël Simsolo réalisées par Laurent Macchietti, Martina Roche et Marianne Manès. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 février 1992. Demain, à la même heure, deuxième épisode d'une série de 5 dans les nuits de France Culture autour de Selznick.